Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à tous. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Pierre Gattaz, président du MEDEF.
Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour Pierre Gattaz. Merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL ce matin. L'info de la nuit, en effet, c'est cet accord au finish sur l'assurance chômage avec à la clé une économie d'1,2 milliard d'euros. C'est un bon accord.
C'est un accord responsable, c'est un accord compliqué, difficile. Ça fait des mois que nous négocions et je crois que les partenaires sociaux, patronaux et syndicaux, ont pris leur responsabilité pour essayer en effet de réduire le déficit en effet au moins de 1 milliard d'euros.
C'est un accord responsable, on va avoir les détails. Est-ce que ça n'est pas aussi politiquement, je dirais, un accord intéressé? Parce que c'est une façon de dire aussi aux candidats à la présidentielle et en particulier Emmanuel Macron, laissez-nous tranquilles, on sait gérer l'UNEDIC parce que Macron dans son programme veut reprendre la main, on sait gérer, on sait faire des économies.
Mais si vous voulez, nous on croit au paritarisme, alors même si ce paritarisme, il faut le simplifier, il faut l'améliorer. Mais je dirais, lâcher prise à 3 semaines ou 4 semaines d'une élection majeure, en disant on ne sait pas signer un accord, c'est, je dirais, ouvrir une boîte de Pandore, qu'on ne voulait pas ouvrir, ni côté patronat, ni côté syndical. Donc en fait, on a réussi à trouver cet accord, et j'insiste, sans augmenter les contrats courts, les cotisations sur les contrats courts. Car vous savez que c'était le point d'achoppement depuis des mois, nous ne voulions pas augmenter la taxation.
Vous avez gagné la partie même. Mais sur les contrats courts. Écoutez, il n'y aura plus de surtaxe, sauf sur les contrats d'usage. Et les salariés concernés savent bien de quoi on parle.
Non, même sur les contrats d'usage, on va supprimer la surtaxation qui a été introduite dans l'année 2013.
Ouais.
On va enlever cette surtaxation sur les contrats courts et les contrats d'usage. Alors avec un petit décalage de 18 mois sur les contrats d'usage,
certes, mais ce sera supprimé.
Car en effet, cet accord permet de ne pas augmenter le coût du travail, car c'était aussi une ligne rouge que je ne voulais pas franchir. Il faut baisser le coût du travail en France, c'est un des problèmes de la France, et donc nous avons trouvé un système équilibré malgré tout qui globalement fait que...
Équilibré ? Sur cette question, c'est vrai que Macron n'a pas renoncé lui à son projet de bonus-malus sur les contrats courts, parce qu'il part du principe que pénaliser les entreprises qui abusent de ce droit, ça a un sens.
Mais c'est une erreur. C'est une vraie erreur. On le voit bien, ça n'a servi à rien de surtaxer les contrats courts depuis 2013. Donc on a supprimé dans cet accord cette surcotisation. Et deuxièmement, les contrats courts, le problème, c'est surtout de la formation des chômeurs et des salariés qui utilisent ces contrats courts. Et certains le veulent, sont volontaires d'ailleurs. D'autres le subissent. Et je pense que le problème, ce n'est pas de renchérir cette taxation. Ça n'induit aucun phénomène.
Je crois que continuer de penser
qu'on va taxer les contrats courts pour alléger les contrats plus longs, c'est une erreur parce que certaines filières ont besoin de ces contrats courts pour vivre, définitivement.
Alors ça, vous avez gagné la partie sur ce sujet. Mauvaise nouvelle pour les chômeurs de plus de 50 ans, il faudra attendre 55 ans pour avoir droit à 3 ans d'indemnité et non pas 2 comme les autres demandeurs d'emploi. C'était devenu insoutenable pour le régime ?
Oui, c'est quand même 400 à 500 millions d'euros si vous voulez, par an. Donc en fait, on a décalé cette borne d'entrée des seniors
de 50 à 55 ans
en biseau d'ailleurs, parce que ce n'est pas brutal. Il y a 2 étapes, je crois, à 52 et 53,
et 53 ans.
Et qui fait que c'est une manière douce. Mais d'autre part, si vous voulez, nous sommes pour... Vous le savez, le MEDEF veut absolument aller vers le plein emploi. Donc le problème continue d'être la baisse des charges et le problème continue d'être l'employabilité tout le long de la vie. Je crois que ce sont les deux problèmes fondamentaux. Baissons les charges sur les entreprises et sur le coût du travail, bien évidemment, et faisons que la formation soit accessible à tout le monde et pendant toute la vie. Je crois que c'est un axe extrêmement fort.
Et alors, quel effort en contrepartie vous faites pour aider les seniors ?
Mais écoutez, c'est de les garder. Vous savez qu'il y a eu déjà des décalages. Mais vous savez, on a décalé déjà dans le temps cette borne d'âge et on s'est aperçu qu'en fait, on gardait les seniors. Les seniors sont des gens très précieux. Ils ont une sagesse, ils ont une expérimentation, une expérience. Ils sont très utiles, je dirais, pour former les jeunes. Et donc, je dirais que on va tout faire pour que l'emploi reparte grâce, on l'espère, au prochain candidat, au prochain président qui devra avoir une vraie politique économique qui permettra, je dirais, avec l'amélioration du marché du travail, espérer, tout ça sera beaucoup plus fluide.
On vient de le dire.
Il y aura, excusez-moi, mais dans cet accord, il y a de la formation aux seniors aussi. C'est très important. Ce n'est pas, on a juste décalé la borne d'âge. Il y a aussi un abondement, je crois, dans le CPF et dans la formation des personnes
qui
sont concernées.
Un droit à la formation, effectivement, pour les seniors, en particulier à partir de 53 ans. Vous avez finalement dit oui à une augmentation de la cotisation chômage des employeurs de 0,05%.
Non, je voudrais être très 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 précis et très clair, il n'y a pas d'augmentation de surcotisation, car celle-ci est compensée. Donc globalement, pour les entreprises...
C'est une opération blanche, elle existe.
Alors, c'est une contribution temporaire, ouais. Exceptionnelle.
De trois ans,
qui est totalement compensée pour les entreprises.
Ça, c'est pour les chefs d'entreprise qui vous écoutent et qui vous disent, ils nous avaient promis de ne pas accepter d'augmentation des prélèvements obligatoires, et finalement, il a cédé.
Mais je suis solidaire de cette promesse, puisque c'est depuis 4 ans que je suis au MEDEF, les deux lignes rouges, pour toute négociation, c'est on n'augmente pas le coût du travail et on n'augmente pas les obligations et les contraintes sur l'entreprise. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà très élevés sur le coût du travail en termes de charges et ces obligations sont contraignantes en France. Donc nous avons réussi à trouver un système qui globalement préserve, n'augmente pas le coût du travail et c'est extrêmement important.
0,05% compensé par ailleurs, hein, on ne va pas entrer dans les détails, mais finalement vous paraissez comme les grands gagnants, les perdants ?
Non, pas du tout. Je crois qu'il faut surtout pas dire qu'il y a des gagnants, il y a des perdants. Je pense que, si vous voulez, le fait d'avoir trouvé un accord pour baisser de 1 milliard le déficit, 5 milliards de moins de cotisations. Cotisation patronale à 60%, cotisation salariale à 40%, à terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on redonne de la compétitivité à terme aux entreprises et qu'on redonne du pouvoir d'achat. Quand vous réduisez un déficit dans une négociation comme celle-ci, eh bien, 1 milliard, c'est 1 milliard de moins à porter sur le dos des salariés et des entreprises.
La dette demeure énorme, 35 milliards d'euros environ.
Bien sûr, mais écoutez, il y a 4 milliards de déficit au total sur cette assurance par an. Il y en a un qu'on vient de régler. Il y en a un deuxième qui se réglera mécaniquement par la baisse du chômage, mécaniquement. Les deux autres milliards, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. On a parfaitement pointé les travailleurs transfrontaliers. Il y a un certain nombre de choses qui sont dans la main de l'État. Le financement de Pôle emploi, par exemple, et qu'il doit assumer. Et je crois qu'en effet, on peut tout à fait se mettre dans une position de réduire le déficit et donc de réduire la dette.
On a trouvé 2 milliards d'économies. Maintenant, c'est au futur président de la République de faire en sorte de prendre ses responsabilités et de trouver 2 autres milliards pour qu'il n'y ait pas cette augmentation annuelle.
Absolument. Et il faut baisser le chômage. Si vous voulez, la politique de l'emploi, on va revenir sur les candidats juste après, mais si vous voulez, le plein emploi est un objectif absolument fondamental que tous les candidats à présidentiel devraient avoir en tête. Car le chômage induit, vous savez, de la détresse, du désespoir des gens, des jeunes, des seniors, induit des déficits qu'on ne comble pas et induit des problèmes de l'assurance chômage et tout le reste. Et donc c'est dramatique le chômage pour la France.
À propos, on va venir à cette matinale hier spéciale MEDEF qui a accueilli 4 candidats à présidence de la République. Marine Le Pen, c'est la première fois qu'elle passait un grand oral, on va dire, devant le MEDEF. Elle vous a taclé sur votre promesse de créer 1 million d'emplois contre le CICE. Vous avez apprécié le message ?
Oui, mais je vais vous redire ce qui se passe. C'est qu'en effet, il y a quelques années, j'ai dit qu'on pouvait créer 1 million d'emplois en 5 ans si 4 blocs de réformes étaient faits. Et l'économie française, les entreprises françaises, sans confiance, sans croissance, en 2016, ont créé 200 000 emplois, 190 000 exactement. Ça veut dire qu'en 5 ans, si vous multipliez ces 200 000, Paris gagné à partir du moment... Donc le problème, si vous voulez, quel est le problème ? C'est que si en effet on baisse vraiment les charges et si on introduit un peu de flexisécurité, on peut faire mieux que 200 000 emplois par an. C'est ce qu'ont fait les Anglais ont créé 2 millions d'emplois en 5 ans, je le rappelle, et les Allemands 1 million d'emplois. C'est possible.
Sur la forme, Marine Le Pen, candidate du Front National, dont on raille parfois les faiblesses en économie, a été assez offensive hier. Donc elle vous a taclé, elle n'a rien lâché sur la sortie de l'euro. Est-ce que elle a réussi son grand oral ?
Écoutez, je crois que déjà c'était bien qu'elle soit là et qu'on ait invité les 4 candidats. On a invité 8 candidats. La première session, c'était hier.
La question de savoir si elle devait ou pas être normalisée.
Mais si vous voulez, ça permet d'approfondir.
C'est une question qui est dépassée.
Mais ça permet d'approfondir les programmes, si vous voulez, et d'être interviewé par 4 chefs d'entreprise. Donc on a été dans le fond. Moi, ce que je retiens, si vous voulez, c'est que malheureusement, le problème de Marine Le Pen, elle ne m'a pas du tout convaincu, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que vous êtes d'abord dans la stratégie d'opposition. Elle oppose toujours les grands groupes, les ETI avec les TPE-PME, la finance qui est l'ennemi avec le reste des filières, alors qu'on a fondamentalement besoin de finances pour faire fonctionner l'économie. L'Europe avec les Français. Et puis, deuxièmement, stratégie de repli, puisqu'en effet, elle est toujours dans cette possibilité, cette idée de sortir de l'euro. Et vous savez que...
Les Français qui décideront, mais vous a-t-elle dit. Sous-entendu, votre hostilité m'apporte peu.
Elle se trompe de diagnostic. C'est pas l'euro le problème. C'est les charges sur les entreprises. Pourquoi ? Parce que, vous savez, en euros, nous avons perdu des parts de marché dans la même monnaie avec le reste de la zone euro, les Français. Donc le problème n'est pas l'euro, c'est le problème de la compétitivité des entreprises françaises. Point. Ça, on le dit, on le répète et on est content d'ailleurs de le voir dans d'autres programmes.
Vous continuez de dire que la sortie de l'euro, c'est une situation, c'est un scénario à l'Argentine.
À l'Argentine. Voilà, c'est-à-dire dévaluation, ça veut dire surinflation, ça veut dire appauvrissement des classes moyennes, ça veut dire toute la... Enfin, je dirais, on l'a tous vu, la plupart des économistes l'expliquent, c'est pas la solution.
Alors,
au contraire,
dites,
c'est appauvrissement.
Vous le dites ce matin, vous n'avez pas varié. La CFDT, par exemple, est partie en campagne contre le Front National. Est-ce que vous, MEDEF, à 3 semaines du scrutin, vous allez faire ?
Non, moi je vais continuer de regarder les programmes économiques. Nous avons eu des approfondissements hier, et c'était très bien, pendant 4 heures. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir aller dans le fond des programmes économiques.
Vous donnerez une consigne de vote ?
Je ne donnerai pas de consigne de vote, je m'exprimerai sur la qualité des programmes économiques que nous verrons.
Et la qualité, c'est très clair, votre préféré, c'est le programme économique de Fillon.
Sur le programme économique et social, il est clair que le programme de François Fillon va vers son ambition qui est le plein emploi, bravo, vers son ambition d'aller d'être première économie française à 10 ans, européenne à 10 ans, c'est très bien. Et pour ça, en effet, il faut faire des mesures sur la compétitivité d'entreprise et sur la flexibilité du code du travail. Je crois que ces deux mesures-là,
c'est la cohérence. C'est un programme qui correspond plus au du MEDEF.
Excusez-moi. Ouais. C'est un programme qui a été utilisé dans la plupart des pays au monde qui ont réussi. Ça ne veut pas dire que c'est du ultra-libéralisme, etc. C'est le programme qui a été utilisé dans toute l'Asie, chez les Chinois en particulier, à Singapour, en Angleterre, en Allemagne. Pourquoi ? C'est le programme qui met l'entreprise au centre du village.
Et celui d'Emmanuel Macron ?
Écoutez, il va dans le bon sens, mais il ne va pas aussi loin. Je suis toujours
sur
ma faim.
C'est la continuation du programme.
Je dirais pas ça. Je dirais qu'il va pas assez loin sur la baisse du coût du travail, par exemple. C'est assez flou. Sur la baisse des charges sur l'entreprise, c'est assez flou. Sur le fait que sur le coût du travail, il ne veut pas baisser sur tout le spectre du salaire. Vous savez que pour 2 ingénieurs français, vous pouvez vous en payer 3 en Allemagne et en Angleterre.
Alors que
François Fillon baisse vraiment le coût du travail, baisse les prélèvements
obligatoires. Emmanuel Macron ne supprime ni l'ISF, ni les 35 heures. C'est un péché capital, ça, pour le patronat.
Mais, si vous voulez, ces deux épouvantails. Vous savez, le fringe bashing international. Quand vous allez à l'international, qu'est-ce que vous disent les Chinois ou les Américains ? Ils vous disent, vous avez les 35 heures, ça tourne encore, et vous avez l'ISF. Et parfois, ils vous parlent encore de la taxe des 75% sur les hauts revenus. Il faut faire l'inverse. Il faut faire le marketing de la France par 2-3 mesures formidables. Et tout le monde reviendra investir en France.
Merci beaucoup, Pierre Gattaz, d'avoir été avec nous ce matin dans ce studio d'RTL.
Sur l'UNEDIC, c'est un accord responsable, difficile à obtenir, mais qui devrait permettre d'économiser plus d'1 milliard et sans supprimer les contrats courts. Certaines filières ne peuvent pas vivre sans ces contrats, nous a dit Pierre Gattaz. Le reste du travail incombe désormais à l'État et au futur président de la République. Je glisse rapidement sur le carnet de notes. J'ai l'impression que c'était 12 sur 20 pour Emmanuel Macron et 17 pour François Fillon. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.